stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur l'Écho des Jeunes, votre émission mensuelle de Bac FM 106.1 qui, à chaque émission, aborde un sujet sous divers angles. Aujourd'hui, donc, c'est la première émission de la nouvelle saison qui démarre après une pause de 2 mois de vacances. Et nous avons donc une nouvelle équipe autour de la table qui n'est pas si nouvelle que ça finalement, il y a plus eu de départ que d'arrivée. On a aujourd'hui autour de la table Virginie.
Bonjour.
Cléo.
Bonjour.
Antoine Voirieux.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver autour de la table après ces vacances pour de nouvelles aventures avec l'Écho des Jeunes.
Et Antoine Charrière, moi-même, pour cette émission sur le thème de la sobriété.
On peut dire que le sujet c'est la sobriété dans tous ses états.
C'est ça. Mais avant tout, il est nécessaire de définir ce qu'est la sobriété. La sobriété, c'est repenser notre mode de vie. Ce n'est pas vivre plus mal, mais vivre mieux avec une empreinte carbone plus petite. Il s'agit de réduire les flux de matière et d'énergie. Oui, ok, mais comment ? Pour comprendre pourquoi aujourd'hui, nous vous posons la question de la sobriété. Je vous propose de décrire d'abord les constats. Voici un extrait d'une interview d'Aurélien Barraud, professeur à l'université de Grenoble-Alpes, astrophysicien, chercheur, et il travaille sur les trous noirs et les Big Bang. Intervention qu'il a fait à l'université d'été du MEDEF.
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe.
De nombreux autres chercheurs et écologues expliquent que nous vivons un dérèglement climatique énorme et nous-mêmes l'avons vérifié cet été. Ce qui est préoccupant dans la situation que nous vivons, c'est la récurrence des dérèglements. On vit des étés très chauds, des feux, des orages, des tempêtes et des inondations. Donc toutes ces catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et d'intensité de plus en plus forte. Aurélien Barraud explique que le dérèglement climatique est une des raisons de toutes ces catastrophes, mais la plus grande raison, la plus catastrophique, c'est l'activité humaine, qui pollue, qui acidifie les océans, qui assèche les zones humides et tue la biodiversité. Bref, l'activité humaine et les dérèglements climatiques participent à l'effondrement du vivant dont nous faisons partie. Nous faisons partie de cette nature que nous sommes en train de sacrifier, il ne faut pas l'oublier.
Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner.
Le 6e rapport du GIEC est sorti en février 2022. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat chargé d'évaluer la réalité, les causes et les conséquences du changement climatique. Que nous dit ce rapport du GIEC ? Sur la chaîne YouTube Blast, Paloma Moritz, journaliste, et Camille Etienne, activiste écologiste, ont fait une vidéo de 20 minutes pour nous expliquer ce que dit le rapport.
Alors il n'y a pas les 20 minutes, mais il y a un petit extrait.
Le 28 février, vous avez sûrement reçu une alerte sur la sortie du 2e volet du 6e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors que le premier volet portait sur la compréhension physique du système climatique et du changement climatique, celui-ci se concentre sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation de nos sociétés au dérèglement climatique.
Ce rapport montre l'importance de penser ensemble la réduction des émissions et l'adaptation de nos sociétés pour maintenir des conditions de vie dignes pour toutes et tous. Il montre à quel point la lutte contre le dérèglement climatique est politique et systémique.
Pour bien comprendre ce dont on parle, pour faire face à l'urgence écologique, il ne s'agit pas seulement de réduire nos émissions. Sinon, ce serait presque simple. Mais il faut aussi prendre en considération l'interaction des systèmes entre eux, les impacts sur la biodiversité, etc. Bref, l'interdépendance.
Ce volet est totalement inédit puisqu'il a une approche beaucoup plus systémique et prend aussi en considération la justice sociale, climatique, les inégalités économiques et les discriminations. Et aux joies, il offre des solutions au monde et propose de nombreux leviers d'action. Maintenant qu'on vous a dit tout ça, on peut rentrer dans le détail.
Donc la société est organisée pour que nos comportements visent la consommation. Nous avons développé par la publicité, par les modes, les habitudes, comme arroser toujours sa pelouse pour qu'elle reste verte ou prendre sa voiture pour aller à Paris. la recherche d'une sorte de bonheur. Avoir le dernier iPhone, manger ce que je veux quand je veux, même si c'est des tomates en décembre, avoir mieux que le voisin, plus cher, plus grand, les tailles des télés et des voitures par exemple.
Nous allons écouter un extrait d'une interview de Thinkerview, donc pareil, une chaîne sur YouTube, d'Emma Aziza qui est hydrologue, spécialiste de l'eau et qui nous explique son point de vue.
En fait, on est tous face au même futur, tu vois, commun. Et en réalité, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, face à des systèmes qui ont manipulé nos subconscients et qui calculent nos temps de cerveau permanents, en réalité, je pense que le seul moyen, c'est d'essayer que chacun reprenne son pouvoir. Et pour pouvoir reprendre son pouvoir, le seul moyen, c'est d'essayer d'augmenter notre niveau de conscience. Et pas d'augmenter notre niveau de conscience sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète, qui semble ne pas nous intéresser, parce que c'est comme ça d'abord qu'on a parlé du climat. En France, à chaque fois qu'on parlait du climat, on montrait un glacier, on montrait un ours blanc. Et donc on expliquait aux gens que ce pauvre ours blanc, finalement, il était en fait sur son iceberg en train de fondre. Ça générait chez nous de la frustration, de la colère, de l'impuissance. Et en réalité, tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas où agir, tu sais pas ce qu'il faut faire.
Nous devons alors nous adapter à ces enjeux collectifs et avoir pour objectif la survie de l'humanité. Oui, mais dans des circonstances soutenables et vivables. Quand on sait que les centrales nucléaires dépendent du refroidissement des réacteurs par les eaux des fleuves, nous devons nous poser la question de produire de l'énergie autrement. Par des énergies renouvelables par exemple, ce qui pose là la question de la construction des panneaux solaires ou de l'éolien. D'autres constats sur l'utilisation de l'eau. Les vêtements consomment énormément d'eau à la fabrication, et ceux que nous portons sont fabriqués en majeure partie dans les pays pauvres ou en développement, comme l'Inde ou le Pakistan. Avec ce raisonnement, on s'aperçoit que les usages de l'eau sont interconnectés d'un bout à l'autre de la planète. Ces questions sont complexes et on voit bien qu'elles doivent être abordées sous tous les points de vue, pour apporter des réponses en adéquation avec les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que nous vivons.
Encore un extrait de la vidéo de Paloma Moritz et Camille Etienne sur le rapport du GIEC.
Revenons à l'adaptation. Elle joue un rôle central dans la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité de nos sociétés au dérèglement climatique. Mais, problème, le GIEC souligne un accroissement du retard des mesures d'adaptation malgré leurs effets bénéfiques. Concrètement, ça marche, mais on n'en fait pas assez.
Ce rapport met particulièrement en évidence leur faisabilité. Une vaste littérature scientifique démontre que les contraintes économiques, institutionnelles, physiques sont pour la plupart moyennement ou facilement dépassables. Il s'agit donc de volonté, tout simplement.
En réalité, les actions d'adaptation les plus complexes sont minoritaires. Sur les 23 actions d'adaptation identifiées, comme par exemple améliorer l'efficacité de l'usage de l'eau, renforcer les protections côtières ou encore perfectionner la gestion des catastrophes naturelles, 12 sont moyennement ou très faciles à mettre en place. En revanche, le temps presse. Plus le réchauffement climatique s'intensifie et plus les mesures d'adaptation deviennent complexes, voire impossibles. Encore une fois, il est temps de se bouger.
La littérature scientifique, elle démontre que les efforts d'adaptation y sont plus efficaces s'ils sont réalisés en incluant les populations locales. Le renforcement des capacités et la participation significative des groupes les plus vulnérables et marginalisés, ils permettent de meilleurs résultats d'adaptation. L'enjeu est donc aussi démocratique.
Par exemple, les scientifiques ont observé que la coopération avec les communautés locales et les peuples autochtones, ainsi que la reconnaissance des droits inhérents des peuples autochtones, font partie intégrante de la réussite de l'adaptation des forêts dans de nombreuses régions, comme par exemple sur les actions de conservation.
Il y a urgence à améliorer nos politiques d'adaptation, car certaines mesures d'adaptation ne seront bientôt plus possibles.
Et oui, une partie des écosystèmes, comme certains coraux, forêts tropicales ou régions polaires, ont atteint des limites dites dures, c'est-à-dire un point de non-retour.
D'un point de vue géopolitique, la Terre est soumise depuis des décennies à des extractions de plus en plus violentes pour la nature. Nous extrayons toujours plus de pétrole, toujours plus de minerais pour fabriquer nos téléphones ou nos ordinateurs. La situation actuelle est la conséquence d'événements géopolitiques majeurs et nous voyons bien que tout cela est systémique depuis l'entrée en guerre de la Russie et de l'Ukraine. Il y a une réalité sociale parfois sous-estimée. En effet, les plus pauvres en France et dans le monde sont les plus exposés à ces dérèglements climatiques. De plus en plus de populations sont déplacées à cause des inondations et montées des eaux, et ce n'est que le début. D'autres sujets comme l'alimentation et l'agriculture ou encore l'habitat sont très sensibles pour les personnes les plus défavorisées de notre pays. La sobriété énergétique est difficile quand on vit dans des logements qui sont des passoires thermiques. Un enjeu pour les plus défavorisés est de mettre en place des mesures d'urgence pour des habitats vivables, pour un accès à une alimentation convenable. Nous n'avons pas le temps de développer tous ces sujets, mais il nous paraissait important d'en parler pour montrer à quel point ce sujet de la sobriété est systémique et complexe.
Camille Etienne et Paloma Moritz, dans leur décryptage du dernier rapport du GIEC, parle de maladaptation.
Il faut faire attention aux mesures de maladaptation. À nouveau, le GIEC affirme par ailleurs que la maladaptation affecte particulièrement les groupes marginalisés et vulnérables. Il y a le cercle vicieux, mais aussi le cercle vertueux qui nous appartient d'enclencher. Les efforts d'adaptation entraînent des effets bénéfiques plus larges. Pour vous donner un exemple d'adaptation qui marche, le fait de végétaliser les villes, ça peut apporter un rafraîchissement local et donc nous permettre de mieux faire face aux canicules.
En fait, pour que ça marche, le GIEC souligne l'importance de l'émergence de conditions sociales et politiques favorables à l'action contre les effets du réchauffement climatique.
Ouais, en gros, ce qu'il faut, c'est des politiques et des instruments avec des objectifs et des priorités claires, une meilleure connaissance sur les impacts et les solutions, plus de financement, et des processus de gouvernance inclusifs.
Bref, pas exactement ce qu'on est en train de faire.
Ah ouais, maman.
On entend aussi des réflexions sur la sobriété et la consommation.
Je suis libre d'acheter ce que je veux.
Oui, mais dans la définition de la liberté, dans la Constitution française, il est écrit « ce qui ne nuit pas à autrui ». Après tout ce qu'on vient de démontrer, on peut donc se dire entre nous que oui, des actes d'achat peuvent nuire aux autres et plus globalement à la population, donc à soi-même. Je ne vais pas faire un devoir de philo ici, maintenant, mais vous voyez bien que tout cela réinterroge nos comportements et le vivre ensemble.
Alors maintenant, parlons des solutions.
On n'a plus beaucoup de temps, mais on peut encore agir. Le GIEC nous propose des pistes de solutions. Nous trouvions intéressant cette vision du GIEC parce qu'elle met le doigt sur une donnée importante. Les plus touchés par ces catastrophes et ces changements sont les plus défavorisés dans le monde. Des inondations obligent des populations à se déplacer de plus en plus et de plus en plus vite. Le point de vue du GIEC qui nous paraissait primordial, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire impliquer tout le monde dans la recherche et la co-construction des solutions. Le mot d'ordre, coopérer.
Et encore un extrait donc de la vidéo de Paloma Moritz et Camille Etienne sur ce sujet.
Dernière partie, le développement résilient au changement climatique. Ce que met en avant ce rapport, c'est la nécessité absolue de développer une résilience climatique qui prend en considération les actions d'atténuation et d'adaptation dans une approche systémique, basée sur l'approche « une seule santé », la nôtre, celle des écosystèmes et de la planète et les droits humains. La résilience montre qu'il ne s'agit pas simplement de maintenir les fonctions vitales d'une société, son identité, sa structure, mais aussi sa capacité à se transformer.
Je cite au regard des impacts, des vulnérabilités, des risques, le développement de cette résilience est encore plus urgent que ce qui avait été évalué lors du RE5. Il y a un réel besoin de réponses efficaces et innovantes.
Le GIEC l'affirme. Si on parvient à limiter le réchauffement en dessous de la barre des 1,5 degrés, il y aura plus de bien-être, moins de risques, plus de justice, d'équité, une meilleure santé des écosystèmes, une baisse de la pauvreté. Bref, on a vraiment tout à y gagner.
Et bonne nouvelle, pour une fois, la justice sociale et climatique contribue à des avantages multiples pour la santé, le bien-être et les services écosystémiques, y compris pour les peuples autochtones et les communautés marginalisées et vulnérables. Plus de justice réduit les risques.
Les auteurs le disent clairement. Pour être plus résilients, nous aurons besoin d'une meilleure coopération internationale. Il faudra que les gouvernements travaillent à tous les niveaux, avec les communautés, le corps enseignant, la société civile, les institutions scientifiques, les médias, les investisseurs, tout en travaillant main dans la main avec des groupes qui sont traditionnellement marginalisés, les femmes, les jeunes, les peuples indigènes, les communautés locales et les minorités ethniques. Bref, il faut qu'on arrête de travailler en silo et qu'on apprenne à coopérer.
Et oui, encore un enjeu démocratique, très clairement. Et là, ce passage est vraiment intéressant parce qu'ils écrivent « Le développement de la résilience progresse quand les acteurs travaillent de façon juste, équitable et de manière à réconcilier les différents intérêts, valeurs et visions du monde vers plus de justice et d'équité. »
Bref, la vulnérabilité qu'on peut appeler structurelle au changement climatique peut être réduite à travers l'élaboration de politiques, de lois qui vont du local au global et s'attaquent aux inégalités basées sur le genre, l'origine, l'âge, les handicaps, le lieu et les revenus.
Très requin, finalement, ce GIEC.
En fait, la sobriété est une solution démontrée par de nombreux scientifiques et des associations comme
l'ADEME ou Negawatt.
Ont publié des scénarios pour réduire les impacts des flux de matière et flux d'énergie. Negawatt a sorti plusieurs scénarios, dont un dernier qui explique que la sobriété est le premier étage de l'action pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Negawatt précise que la sobriété est tout ce qu'on peut faire de manière individuelle et collective pour changer nos comportements et nos choix, pour réduire la quantité nécessaire pour satisfaire nos besoins de base.
Un autre exemple de solution, des parlementaires européens travaillent sur l'obsolescence programmée. Donc en fait, on voit bien qu'à différents étages, que ce soit l'Europe au niveau national, au niveau régional ou au niveau local, on peut très bien agir. Et du coup, on peut se poser aussi la question, la sobriété, incitation ou contrainte. Donc on entend aussi...
Il faut arrêter d'inciter, mais contraindre.
Oui, sans doute. Par exemple, pour l'eau, nous pourrions faire payer un prix acceptable des litres jugés nécessaires à la vie quotidienne et faire payer très cher les litres supplémentaires, comme pour remplir des piscines par exemple. Sachant que les plus consommateurs sont ceux qui ont le plus de moyens, CQFD. Sans pointer du doigt les uns ou les autres, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais il serait intéressant de revoir la consommation de ressources d'un point de vue de la justice sociale et de l'équité. Donc quand on parle de sobriété, on en parle un peu, comme je le disais tout à l'heure, à différentes échelles, que ce soit une échelle nationale, européenne ou locale. C'est une approche systémique, géopolitique et écologique. Et je vous propose donc de poursuivre le sujet de la sobriété avec Aurore Bonneau, qui est chargée de mission au CIEN. Elle nous dira ce que veut dire CIEN, S-I-3-E-N, qui agit à l'échelle locale, donc dans la Nièvre. Aurore, bienvenue dans l'émission L'écho des jeunes. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le CIEN ? Je disais ça tout à l'heure, vous pouvez travailler au CIEN, donc S-I-3-E-N. Et pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail ?
Oui, bonjour à tous. Donc je travaille au CIEN, donc le syndicat d'énergie. Donc c'est le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre en tant qu'animatrice de l'énergie. Donc mon travail porte sur la précarité énergétique et l'éco-exemplarité. C'est une démarche que nous conduisons en interne dans notre syndicat d'énergie depuis 2010, qui consiste à mettre en place des actions vertueuses d'économie d'énergie, d'eau et bien d'autres.
Et donc le sujet de l'émission, c'est la sobriété. Comment définiriez-vous ce mot et est-ce que c'est synonyme de privation ou pas forcément ?
Alors pour moi, il n'y a pas de définition figée. De mon point de vue, la sobriété, c'est adopter un comportement plus modéré, dont les consommations seront raisonnées, éviter les consommations excessives ou inutiles et lutter contre le gaspillage. En améliorant les pratiques, il est possible de réduire les consommations. Pour moi, ce n'est pas forcément synonyme de privation. Il s'agit de changer ses habitudes sans changer son confort. Certains ont déjà adopté ce comportement, donc il faut continuer ainsi. Et pour d'autres, quelques changements seront à mettre en place. C'est positif pour le budget et pour la planète. Par exemple, adapter ses usages à son mode de vie. Une personne absente en journée de son domicile n'aura pas besoin de chauffer son logement à 20 degrés toute la journée. À 17 degrés, cela suffit. N'oublions pas qu'un degré d'économiser, c'est 7% sur la facture.
Donc, vous travaillez, je crois, sur l'économie circulaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut définir certaines missions du CIEN ?
Alors, il y a cette mission-là qui est dédiée à une autre collègue au sein du CIEN, parce qu'on a beaucoup de compétences. Après, l'économie circulaire, je l'aborde dans la démarche éco-exemplarité qu'on a en interne. Donc, j'ai quelques notions.
D'accord. Et donc, est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer en quoi cela répond aux besoins en sobriété, l'économie circulaire ?
Oui, je voulais juste préciser que l'économie circulaire, c'est pas uniquement lié au recyclage des déchets, parce qu'on l'associe souvent au terme des déchets. Et en fait, ça vise à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources. Donc l'économie circulaire répond aux besoins de sobriété puisqu'elle met l'accent sur la conception, la production, la consommation et le prolongement de durée d'usage des produits. Donc par exemple au sein du CIEN, nous privilégions le réemploi, la réutilisation et le recyclage du matériel. Certains ordinateurs sont donnés aux associations nivernaises afin de prolonger leur durée de vie. Et nous avons également mis en place une journée vide dressing en interne pour faire du troc de vêtements en bon état entre collègues.
Ah, très bien. Et ça marche ?
Oui, ça a bien fonctionné. C'était la première fois, donc c'était bien.
D'accord. Et donc, dans le cadre de votre travail, vous êtes appelé à accompagner des entreprises ou des particuliers, des collectivités pour moins ou mieux consommer. En fait, qui est-ce que vous accompagnez et du coup, pour faire quoi ?
Alors, en collaboration avec l'Agence locale de l'énergie et du climat de la Nièvre, nous réalisons des animations auprès des ménages et des enfants sur le thème des économies d'énergie. Après, certaines collectivités prennent contact avec moi pour les sensibiliser à l'éco-exemplarité au profit des occupants des bâtiments municipaux, donc les agents, les associations dans le cadre de leurs services.
Ok, et est-ce que vous pensez que le message passe? Est-ce qu'il est compris?
Je pense que le message est compris. Après, avec la crise actuelle, malheureusement, les personnes sont conscientes des enjeux. Après, il reste à mettre en place les bons gestes et il faut le faire en positivant. Tout est affaire d'habitude et c'est le moment de prendre des bonnes habitudes qui perdureront après la crise énergétique.
Et côté énergie, justement, on entend que la sobriété passe d'abord par l'énergie qu'on ne consomme pas. J'imagine que c'est votre message, mais au-delà de ça, comment faire ?
Donc effectivement, certaines consommations d'énergie pourraient être évitées. Je pense notamment aux appareils en veille ou les chargeurs de téléphone qui restent branchés sans le téléphone, ça consomme. Et puis, bon bah voilà, la société a évolué, nous multiplions les appareils à la maison, donc nous multiplions les consommations. Après, quand on parle d'énergie, faut se dire que ça concerne pas que l'électricité. Ça prend en compte les différents modes de chauffage, mais aussi le carburant pour se déplacer. Adopter des nouveaux modes de déplacement permettrait de ne pas consommer ou moins en utilisant des modes de déplacement plus doux. Et en plus, ça permet de faire du sport. Et je pense qu'il est également important de conserver l'énergie dans son logement afin de réduire donc ses besoins en énergie et du coup ses factures. Et pour cela, bah, il est nécessaire d'isoler les logements ou les bâtiments.
On parlait tout à l'heure effectivement de passoires énergétiques et c'est vraiment un gros problème, j'imagine, pas que dans la Nièvre, mais en tout cas dans la Nièvre, il peut y en avoir pas mal.
Oui.
Et donc, d'après ce que vous dites, on entend quand même une certaine évolution dans les comportements. Est-ce que vous pourriez dire que les choses avancent sur ces sujets, dans le cadre de votre travail notamment ? Et vous nous avez donné quelques exemples, est-ce que vous en avez d'autres ?
Oui, alors après, les comportements évoluent. On est de plus en plus sollicité pour réaliser des ateliers de sensibilisation aux bons gestes à la maison comme au bureau maintenant. Après, lorsque j'ai commencé les animations il y a 3 ans, les participants apprenaient de nouveaux gestes. Aujourd'hui, ils sont plus sensibilisés, ils connaissent déjà des bons gestes. Et bon, après, ils peuvent aller plus loin dans leur pratique. Donc l'impact de la facture incite à faire évoluer nos pratiques malheureusement. Après, nous nous apercevrons d'ici quelques mois que nous pouvons bien faire avec moins et que cela ne pose pas de problème. Il faut juste que ça se fasse dans nos habitudes.
Ok, bah merci beaucoup Aurore Bonneau. Je rappelle que vous travaillez au CIEN. On voit bien que du coup, toutes les choses que vous mettez en place peuvent apporter des solutions pour les ménages, pour les collectivités, pour les entreprises. Et on peut dire qu'on est dans le bon chemin.
Oui, il faut positiver. On est
okay.
dans le bon chemin.
Merci beaucoup. On merci va lancer la plage musicale. Je vous propose d'écouter Aurel San, Baise le monde.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette pêchée par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêt, j'suis sur mon 31. C'est pas le 31, juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanananana.
Bac FM 106.1.
Eh bien, nous poursuivons notre émission La sobriété dans tous ses états avec Antoine Doirieux qui nous a concocté, je dois dire, une petite chronique sur Christophe Galtier. Déjà, qui est Christophe Galtier? Et à toi, Antoine.
Eh bien, très bien, oui. Je suis ici pour vous amener un petit peu de bonheur, de joie. On va discuter, on va débattre. Et vous, auditeurs, qui vous sentez peut-être un peu stressés depuis le début de l'émission, on va relativiser et on va parler football, mais pas seulement. Donc, vous l'auriez peut-être deviné, hein, mais oreilles curieuses et affûtées de Bac FM, je vais vous présenter Christophe Galtier et revenir sur la polémique du char à voile. Alors, Monsieur Galtier, hein, le solide, le rock, comme on l'appelait lors de ses années à l'OM en tant que défenseur central, il a gagné l'Euro avec l'équipe espoir de France, mais zéro sélection dans l'équipe A professionnelle. Donc, après une carrière plutôt correcte, une carrière moyenne pour un joueur de Ligue 1, il est passé par plusieurs clubs, il arrête le foot en 1999. Mais pour Monsieur Galtier, le foot allait changer de zone corporelle, étant donné qu'il n'a plus le jeu à penser au bout du pied, mais bien dans la tête. En effet, il se reconvertit vite au travail d'entraîneur et endosse le survêtement de second d'Alain Perrin. Ça doit vous parler, Virginie ?
Non.
Ah d'accord, grand entraîneur de football.
Bénique.
Il fera beaucoup de clubs à l'étranger, jusqu'à arriver à Saint-Étienne, où ça se passe pas au top pour Perrin, et il est limogé. Donc, Galtier devient, pour la première fois de sa vie, entraîneur numéro 1. Il lance alors des joueurs désormais connus à l'international, et même par Virginie, tels que Aubameyang, Payet...
Ah bah oui,
Payet.
Dimitri.
Dimitri et Blaise, le fameux Matuidi.
Blaise Matuidi.
Et en 2013, il gagne la Coupe de la Ligue et est élu meilleur entraîneur au trophée UNFP.
Ah génial.
Donc là, en 2013 déjà, c'est qu'il commence
déjà, c'est pas mal.
Assez bien sa carrière d'entraîneur. Et en 2019, il gagne encore le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 après une année surprise et une deuxième place à Lille qui avait terminé à une place de la relégation l'année d'avant.
Il faut être précis, Antoine.
Une place avant. Parce
ok,
que c'est,
très bien.
Voilà.
Okay.
Et en 2021, Galtier est champion de France avec Lille et un point devant le PSG.
Ah.
Après donc une saison à 80 points, une saison vraiment exceptionnelle. Ils ont dominé le championnat et ils ont gagné. Et c'était mérité. Ça fait du bien de voir autre chose que le PSG en haut du classement. Et donc, il s'engage la saison dernière, la saison 2020-2022 avec Nice, une saison plutôt mitigée. Il termine dans la première partie du tableau, mais finalement, on s'était habitué à que Christophe Galtier remonte les clubs et fasse des choses exceptionnelles. Là, on n'a pas forcément vu un jeu exceptionnel non plus. Et en 2022, alors que le PSG était à la recherche d'un entraîneur... Mais quelle surprise finalement.
Hein, je ne m'y attendais pas non plus moi.
Ouais, c'est un peu le feuilleton chaque été. Hein. étant donné que bon, défaite en Ligue des Champions, ça rime avec limogé pour le PSG.
Ça rime moyennement, mais oui.
Ouais. Ça rime pas trop.
Oui, non.
J'ai fait ma cinquième et j'ai vu en français.
C'est pas une rime.
C'est une rime pauvre.
Pas comme le PSG finalement. alors qu'on citait les plus grands noms hein, pour entraîner le PSG, notamment. Le ZZ, idole de ta génération, Virginie.
Zinedine.
Zinedine Zidane. Eh bien, bon, bah, c'est Galtier.
Ah. Bon, on dit ok.
Il a plus de cheveux.
C'est Galtier qui arrive au PSG avec une proposition virile. Hein, maintenant, à chaque fin d'entraînement, ça sera un barbecue avec les copains.
Ok, je ne polémique pas non plus.
Mais non, mais c'est bien sûr, c'est une blague. Mais donc, ah. il met de côté tous ceux qu'il estime illégitimes. Il crée ce qu'on appelle le loft. Et il décide de jouer et de construire un projet pour que l'équipe puisse tourner correctement. Et pour que l'équipe tourne bien, un gros problème qu'il y avait au PSG, bah, c'était les égos trop forts. Donc il doit se charger de les gommer. Et parmi ces égos, évidemment, Mbappé, hein, qui a signé un contrat de folie, qui le met au centre du projet PSG. Et donc pour Galtier, pour cette équipe du PSG, le début de saison est bon, à la hauteur de l'équipe. Hein, on va pas non plus... s'extasier devant une première place, hein, c'est normal vu le budget et l'équipe qu'ils ont. Et donc, également 2 victoires sur 2 en Ligue des Champions face à un club israélien et à la Juventus. Mais dans tous ces débuts plutôt corrects, hein, un projet qui me paraît plutôt bon finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, Virginie.
Ah oui, oui, très très bon au départ.
Et
hein.
Bah,
bien sur le papier, j'ai envie de dire.
C'est ça. Il y a de la tactique.
Il y a de la tactique.
Ça apporte vraiment un jeu assez différent. Mais dans tous ces débuts corrects, c'est glissé un gros pépin.
Une question, j'allais dire, extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakovic, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs?
Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà.
Galtier a gaffé. Hein. Suite à cette blague, de nombreuses personnalités politiques se sont indignées, dont Sainte 1%, je ne sais combien, ou plus Madame Hidalgo, qui a tweeté « Non, mais ça va pas de répondre des trucs pareils. 3 points d'interrogation. On se réveille, les gars. 3 points d'interrogation. » Madame Hidalgo qui doit sûrement se déplacer en vélo. Et Benoît Payan, maire de Marseille, qui tweete, encore une fois, désormais, hein, c'est un peu la plateforme de la politique, « Votre mépris est un crachat en pleine figure. Vous êtes pathétique et triste. C'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. » Donc là, on a quelque chose de fort. Hein, on n'est pas sur les 3 points d'interrogation.
Non.
Et Madame Agnès Pannier-Runacher, qui visiblement n'avait pas vraiment bossé son sujet.
Étonnant.
Ah, étonnant. Mince. En citant Fabien Galtier. Le rugbyman. Le pauvre, il se retrouve mêlé dans une histoire de char à voile alors qu'il fait du rugby. De base, ça visait un entraîneur de foot.
Ouais, Christophe, du coup.
Ouais, Christophe, le saint. Et donc, qui, bon, dans un discours un peu, on le connaît, un rôle, déjà que c'était pas la bonne personne, recraché, bah, ils sont loin des enjeux climatiques, tout ça, alors qu'à l'Elysée, le chauffage est bien sûr à 13 degrés. Hein, c'est connu. Bref.
Bah, oui.
Et justement, ce que je viens de dire, c'est là va être la question de notre petit débat entre nous. C'est toutes ces réactions, ça soulève quelque chose de plus en plus présent dans l'idéologie radicale écologiste. C'est ainsi que se définit, en tout cas, Sandrine Rousseau. Hein, faut de la radicalité. Et c'est pour moi un des aspects de son idéologie. Et donc, on va prendre l'exemple d'un autre candidat, bon, qui n'a pas fait 1% cette fois, mais bien plus, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui s'est affiché avec un SUV, je ne sais pas si vous avez suivi un Jeep, lors d'une sortie militante, bon là il s'est fait allumer sur les réseaux le Jean-Luc, hein. Et donc c'est la pensée selon laquelle donc la personne qui dicte l'idéologie doit être
irréprochable.
Alors, pur syndrome de notre époque et des réseaux sociaux, hein, on dirait que donc bah finalement, je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un idiot parce que les gens attendent finalement un messie qui émet 0 gaz à effet de serre, qui vit sur la paille et mange des pissenlits en les anesthésiant avant de les couper.
Ah ouais, ça fait rêver, ça envoie du rêve.
Ça envoie du rêve. Donc ouais. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, il dicte une idéologie qui va vers un combat public, vers la sobriété. De toute façon, vous en pensez quoi? C'est pas une personne qui va tout changer.
Non,
évidemment, c'est collectif.
Donc, ce n'est pas parce que votre maman, par exemple, vous a appris à ne pas dire de grands mots, que si elle en dit une fois, vous allez vous mettre à en dire tout le temps. Donc, Jean-Luc Mélenchon n'est que le porte-parole de ce que vous pensez ou pas. Donc, c'est sur ça que j'aimerais discuter avec vous. C'est, est-ce que l'idéologue doit être irréprochable dans la pensée qu'il dit, qu'une pensée qui est presque abstraite, pas abstraite, mais en tout cas ça découle d'un combat précis, mais avec des solutions qui sont multiples. Est-ce que l'idéologue doit être irréprochable ? Est-ce que l'idéologue doit faire ce qu'il dit de faire ou seulement être le messager ?
Alors si je peux me permettre,
bien sûr, mais c'est le but de cette
chronique. Je pense que les gens qui sont en responsabilité, comme Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, que tu as cité, et bien d'autres sur ce sujet-là, je pense que ceux qui sont en responsabilité, il y a quand même la notion d'exemplarité. Je ne dis pas qu'ils doivent être dans l'idéologie, parce que l'idéologie, pour le coup, ça reste quelque chose de très, très supra. Enfin, on n'est pas dans le faire, dans l'idéologie, pour le coup, on est dans l'expliquer, on est même des fois dans la passion. Enfin, et je pense que des gens qui expliquent aux autres quoi faire doivent être un tout petit peu dans l'exemplarité. Après, je pense que c'est pas possible d'être nickel sur tout le temps. Les écologistes, par exemple, ils ont pas tous un vélo, ils mangent pas tous du quinoa, des graines.
Il y en a deux qui ont deux appartements.
C'est des idées qui. Non, mais c'est des idées, je pense, qu'on se fait ou l'inverse, hein, gens à droite qui investissent en bourse, ou j'en sais rien. Donc, je pense que c'est plutôt des cas de conscience collectifs. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de gauche, de droite, d'écologiste ou je sais pas quoi.
Est-ce que finalement c'est pas reculer devant le combat que d'accuser Jean-Luc Mélenchon de soutenir un combat qu'il ne fait même pas parce qu'il se déplace en SUV, on sait même pas si c'est sa voiture d'ailleurs.
Ouais, après moi je pense qu'il y a dans les médias aujourd'hui, la politique et les médias sont souvent intimement liés et on est des fois dans des symboles en fait plus que dans le fond. Et là, le symbole du SUV, aujourd'hui, c'est quand même un symbole énorme de type de véhicule dont on n'a pas besoin, par exemple. Et donc, qui consomme énormément, qui, à la fabrication, consomme aussi beaucoup de matière. On en parlait tout à l'heure quand Cléo et Antoine ont expliqué ce que c'était que la sobriété. C'est, du coup, il y a énormément de matière, ça pèse énormément lourd, on a besoin d'énormément d'électronique, etc., etc. Donc ça, c'est un espèce, le SUV, pour moi, c'est un des symboles, là, aujourd'hui, de l'inverse de la sobriété. Oui, de la surconsommation, des choses dont on n'a pas besoin. Et du coup, voilà, le fait qu'il s'affiche dans le SUV, ça donne la part belle dans les médias à expliquer qu'il est à l'inverse de ce qu'il veut prôner. Il y avait quelqu'un d'assez emblématique sur ce sujet, c'est Pierre Rabhi, qui a écrit d'ailleurs un super petit bouquin qui se lit assez facilement sur la sobriété heureuse. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on est en train de se... Alors, à grands traits, parce que Pierre Rabhi, il faut le lire, hein, moi je ne peux pas retranscrire exactement, c'est pour moi quelqu'un d'assez philosophe. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est en train de s'ensevelir sous un tas d'objets, un tas de choses dont on n'a pas besoin, alors que... Et donc, on n'est pas plus heureux. Et que la sobriété, quand on a exactement, on consomme ou qu'on achète ou qu'on recycle exactement ce dont on a besoin, en fait, on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être de la solidarité, de la fraternité, de la sororité, des choses très simples. Et du coup, la consommation nous emmène sur des terrains qui sont, pour le coup, plutôt à l'inverse de tout ça. Et donc, on n'est jamais heureux. Plus on consomme et on a l'impression qu'on court après un bonheur qu'on n'atteindra jamais. Et puis pour revenir juste un mot sur la personnification, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de personnifier des choses. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de Aurélien Barraud. Je vous invite à aller voir quelques vidéos sur YouTube d'Aurélien Barraud. Lui, il explique que c'est bien de personnifier quand il faut. Par exemple, Greta Thunberg a personnifié à un moment donné la jeunesse en colère et voire même surrévoltée par rapport à des comportements des gens en responsabilité aujourd'hui de nos politiques, etc. Mais qu'aujourd'hui, on la voit plus et c'est pas grave. Et lui, il dit, il faut que la personnification des combat tourne et que ce soit pas justement des personnes qui incarnent les luttes, mais qu'on soit bien plusieurs à incarner des luttes. Et c'est comme ça que ça marchera. Parce que déjà, la personne, Greta, par exemple, elle a été très acculée sur plein de choses et donc c'est compliqué pour elle de vivre ces moments-là. Et puis, à un moment donné, c'est bien aussi qu'il y ait d'autres têtes. Donc on est dans une période, je trouve, très compliquée par rapport à tout ça. C'est qu'on voudrait de l'idéologie, des meneurs, un seul ou deux, sauf que la société n'est pas faite comme ça. Et qu'une fois que le meneur ou la meneuse
a lancé le mouvement...
Ou alors identifié et fait le pas de côté, du coup on lui tombe dessus parce que faut pas, voilà, ça reste des humains, ça reste des gens qui sont encore une fois dans la nuance, il faut qu'on soit dans la nuance. Voilà.
Et donc finalement moi je pense que le problème c'est pas, revenons à Christophe Galtier, donc qui a fait une mauvaise blague, hein, il s'est en excusé, il a dit que lui il était vraiment impliqué dans ce projet, qu'il travaillait sur ça avec ses joueurs et qu'il l'avait vu avec ses directeurs pour faire moins de déplacements en avion, parce que c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de faire Paris-Nantes en avion, mais on leur demande pas d'aller à Moscou en bus non plus. Il faut peser le rationnel finalement. Et pour moi, le vrai problème, et celui qui est passé complètement à la trappe dans les médias dans cette histoire, c'est Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, il est à sa droite, il est mort de rire quand on lui pose cette question. Mais surtout, ce que j'ai entendu presque nulle part, j'ai dû regarder la conférence en entier, c'est que le journaliste lui relance la question pour lui demander ce qu'il en pense. Et Mbappé lui dit, moi j'en pense rien du tout. Et après il part. Alors que récemment, il s'est battu avec la Fédération française pour ses droits à l'image, pour ne pas apparaître dans des pubs de paris sportifs, par exemple. Mbappé aurait pu donc faire passer, avec cette conférence, un message d'engagement. Mais c'est là où c'est compliqué, parce que il aurait pu dire « moi, ça m'intéresse », mais on lui aurait tombé dessus parce que finalement, il fait des déplacements en avion.
Bon, bah, on voit que la sobriété, ça crée des débats et qu'on n'est pas au bout de notre affaire. En tout cas, c'est bien qu'on l'ait abordé dans le cadre de l'Écho des Jeunes. Surtout que la semaine dernière, il y avait le Festival des Solutions Écologiques avec Emma Aziza et François Jemaine. Et je crois qu'il y a eu quelques émissions faites sur ce sujet sur BAC FM. Donc, je vous invite à les écouter.
Tu lui écris quand parfois tu t'ennuies. Quand il fait froid dehors, tu t'enivres. Ce soir-là, t'as pas dormi de la nuit. T'écoutes tes Seven Nation Army. Il t'attend quand tu tardes à rentrer. T'en veux pas quand t'as la tête à l'envers. Il te connaît mieux que tu connais ta ville. Le passé, le présent et l'avenir. Quand t'es heureuse, t'oublies les gens d'avant. Quand tu te saoules et que t'as du taf, ça t'arrange. T'aimes pas regarder derrière quand t'avances. Tant ton regard change pas quand t'arrives. Toi tu voudrais faire le tour de la terre. Rigoler pour de la merde même dans les jours de galère. Avec toi c'est jamais le malaise. Tu respectes les gens qui t'aiment. Dans tes yeux pas de manège. Parfois c'est compliqué j'imagine.
Tout c'est qu'à fond dans la caisse. Tout ce que t'as dans la tête.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
Des embrouilles et des problèmes. Le bonheur j'en rappelle.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
C'est comme toi contre le monde. Comme une bouteille à la mer.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
C'est comme toi contre le monde, comme une bouteille à la mer.
Les problèmes sont jamais loin du navire. Sauf quand ils trinquent à leurs aventures. Plus aucune aiguille sur ta pendule. Autour de toi plus aucun vendu. Tu te demandes s'il te cache un secret. Le regard loin devant la fenêtre. Il aimerait savoir pourquoi tu restes. Personne ne sait au combien tu rêves. Tu fais des promesses que tu tiendras après. T'as du casse du papier, sous les problèmes t'as pas pied. Pendant que tu voyages sur l'hémisphère, ton sourire dans un musée, t'as gagné ce que t'as misé. Parfois c'est compliqué j'imagine.
Musique à fond dans la caisse, tout ce que t'as dans la tête.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
Les embrouilles et les problèmes, le bonheur j'en rappelle.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
C'est comme toi contre le monde, comme une bouteille à la mer.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
C'est comme toi contre le monde, comme une bouteille à la mer.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
Musique à fond dans la caisse, t'oublies ce que t'as dans la tête.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
Les embrouilles et les problèmes, le bonheur viendra après.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
C'est comme toi contre le monde, comme une bouteille à la mer.
Parfois c'est compliqué j'imagine.
C'est comme toi contre le monde, comme une bouteille à la mer.
Vous êtes à nouveau sur BAC FM 106.1, donc dans l'émission L'écho des jeunes. Nous terminons l'émission du mois d'octobre avec Antoine Charrière et le portrait du mois qui n'a rien à voir avec la sobriété.
Oui Virginie, merci à toi. On va maintenant complètement sortir du thème de la sobriété et revenir dans la Nièvre, à Nevers, pour le portrait du mois. Je vais ce mois-ci vous présenter AREC Productions, une association locale de réalisation de films courts-métrages. Elle a été fondée en septembre 2019 par Dimitri Larrivé et au fil du temps, plusieurs bénévoles ont rejoint l'association. Ce sont tous des passionnés de cinéma et ils font entre autres des courts-métrages et des captations d'événements. J'ai pu rencontrer Richard Ferragutti, qui est le chargé de production, Loïc Lantier, le vice-président, Dimitri Larrivé, le président, et Lucas Sigo, un acteur de l'association. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord savoir pourquoi avoir créé cette association.
pour partager en fait, partager une passion, réaliser des films, réaliser des reportages. Parce que c'est un milieu qui est très fermé, ça demande beaucoup d'études, puis la région s'y porte pas forcément. Donc du coup, on s'est dit, ouais, pourquoi pas ouvrir une asso, et puis partager ça avec des passionnés, quoi.
Et donc du coup, pour avoir créé l'association, quelles ont été les démarches ?
Tout simplement, trouver un bureau avec un président, un secrétaire, un trésorier, et puis après, c'est de recruter des adhérents passionnés de vidéos, de montage et qui font que l'association tourne.
Oui, justement, j'allais vous demander comment s'est formée l'équipe. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant ou vous avez recruté petit à petit des personnes ?
En fait, on a créé l'association à trois. On était trois amis de longue date. On a commencé tous les trois, en fait, de rien. Et après, on a fait des annonces et puis les adhérents ont commencé à arriver. On les connaissait pas.
Moi, pour ma part, j'ai longtemps fonctionné seul avec ma caméra. Et j'ai fait un break de à peu près 2 ans. Et puis, en fait, c'est les réseaux sociaux qui m'ont fait connaître avec Production. Parce qu'ils mettaient un message comme quoi ils recrutaient. Donc, ça m'a intéressé. Et puis, je les ai contactés, je suis venu. J'ai vu et puis je suis resté.
Et alors j'aimerais aussi savoir, et peut-être je vais me tourner vers Lucas qui est un acteur dans l'association, comment on peut participer à l'association aussi par exemple, comment tu as connu l'association et comment tu as tourné dans un des courts-métrages ?
Alors j'ai connu l'association Arec Production grâce à un casting, donc un casting sur lequel je suis allé. Et du coup j'ai rencontré un petit peu l'équipe. Alors là j'ai montré un peu mes performances, comment est-ce que je jouais tel rôle qu'ils me demandaient. Et du coup, après, ils m'ont choisi pour simplement jouer dans leur court-métrage. Et c'est comme ça, après, j'ai pu créer des liens avec les membres de l'AREC Production.
Ok, donc oui, par des castings. Et pour participer à l'association, peut-être pour ceux qui nous écoutent, comment, par exemple, même pour être derrière la caméra, comment on peut vous contacter éventuellement ?
Par les réseaux sociaux, par téléphone, par mail. On essaye d'être visible le plus possible un peu partout, donc... Il suffit de nous appeler, on fait un petit entretien et puis on voit après ce qui intéresse la personne.
Nous, on fait aussi du recrutement, enfin, on fait aussi une démarche pour chercher des nouveaux adhérents. Puisque pour ma part, je traîne un peu les scènes théâtrales et tout ce qui touche un peu sur l'actoring. Ça me permet aussi d'aller dénicher des nouveaux talents. Voilà.
Avant de parler du coup plus en profondeur de vos projets, j'aimerais savoir quelles ont été vos études et vos parcours professionnels avant l'association ou en parallèle en tout cas de l'association.
Alors pour ma part, rien à voir avec le cinéma, j'étais plombier chauffagiste.
Alors pour ma part, je suis actuellement fonctionnaire territorial, mais j'ai un BTS électronique à l'origine.
Bon, à la base, je suis menuisier, donc rien à voir non plus.
Et Lucas, lycéen, du coup. Très bien. Et donc, dans l'association, vous faites des courts-métrages, essentiellement. Et qu'est-ce que vous préférez faire dans les courts-métrages ? De la réalisation, au scénario, ou même de l'acting ?
Bon, il n'y a pas vraiment de préférence. En fait, on prend plaisir à tous les postes. Bon, c'est vrai que la réalisation, c'est quand même super intéressant. Ça demande beaucoup de technique. Ouais, la réalisation peut-être plus en avant par rapport au reste.
Moi, j'ai une petite préférence pour la prise de son.
Et pourquoi ?
Parce que j'ai une oreille très très fine et puis que quand je mets le casque et puis que j'ai le micro en main, avec la perche, généralement, je vais entendre le moindre bruit. Donc, généralement, je vais faire stopper une séquence parce qu'il y aura un bruit qui me plaît pas et que après au montage, ça ira pas.
Ok. Et on va en parler après de votre dernier court-métrage qui est donc un court-métrage d'horreur. J'aimerais savoir quel est votre type de court-métrage préféré.
Moi, ça sera du policier, hein, c'est clair. Ouais. moi, ça sera du policier. C'est pour ça que j'ai écrit « Laisse pas traîner ton fils ». Sinon, après, ça dépend de ce qui est proposé par les adhérents de l'association, que chacun peut proposer son scénario. Et après, on débat du scénario et puis on le fait avancer ou on le retravaille pour que ça sorte quelque chose de bien.
Le choix est de toute façon assez libre.
Oui. Ah, tout à fait.
Maintenant aussi, j'aimerais savoir, en tant qu'association, comment vous financez vos projets ?
On fait de l'événementiel aussi, donc on essaye d'en faire un maximum, on fait des devis, de l'argent rentre, il y a les adhésions aussi de tout le monde. L'année dernière, on a fait un vide-grenier qu'on recommence cette année, où on a gagné pas mal d'argent, et on essaye d'en gagner comme on peut, quoi. Soit des événements, soit des... on organise des choses, et comme toute association, on peine à faire rentrer de l'argent.
Oui, on fait des ventes de DVD aussi. Tous les courts-métrages qu'on réalise, on les sort en DVD, et puis on les vend...
Ou en clé USB,
ouais.
Okay. Et justement, on peut les retrouver où, ces DVD, ou même vos courts-métrages en ligne?
Alors, les courts-métrages, tout est visible sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne c'est Arec Prod tout simplement, ou Arec Production, et on met tout dessus, c'est, en gros c'est notre vitrine, hein. On met tous nos reportages, tous nos films, toutes les petites vidéos humoristiques qu'on peut faire à côté, et après pour les supports DVD il suffit de nous appeler, en fait on nous appelle, on passe commande, et voilà.
Il n'y a pas tous les films qui sont présents sur la chaîne YouTube. On communique aussi beaucoup sur la page Facebook de tous les projets qu'on a en cours. Le vide-grenier, c'est le 16 octobre, c'est au terrain de pétanque de Marzy, parce que c'est important qu'on le signale. Et mais sinon, on a un film qui n'est pas visible sur la chaîne YouTube, c'est Laisse pas traîner ton fils, puisqu'il est engagé sur différents festivals, et que les règlements de festival font que faut pas qu'on soit sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant il est réservé festival, et peut-être qu'il sera mis prochainement sur YouTube.
Parlons de votre dernier court métrage donc, qui s'appelle Bloodshot. N'hésitez pas à m'interrompre si la prononciation. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez rajouter quelque chose. Donc il s'agit du troisième et dernier chapitre d'une trilogie. Il est du genre horreur et raconte l'histoire de quatre potes, deux policiers et un tueur en série. Et ça va pas très bien se passer pour les quatre potes. Pourquoi avoir fait une série de courts-métrages d'horreur? Alors, vous m'avez dit du coup que vous aimiez bien les policiers. Est-ce que c'était une envie particulière, le genre horreur?
Alors ça, c'est parce que c'est moi qui les ai réalisés. Et moi, je suis plus dans l'horreur pour le coup.
Ok.
Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Parce que faire une comédie, bah, l'humour, ça passe ou ça casse. On n'a pas tous le même humour. L'action, ça demande beaucoup de moyens qu'on n'a pas encore forcément aujourd'hui. Que l'horreur, bon, bah, c'est facile de faire peur, c'est facile de faire couler du sang. Donc, tout simplement, voilà, pour la simplicité.
Très bien. Voilà. Bah, remarque, c'est très réussi. Et puis même le maquillage est assez réussi.
Mais on y travaille.
Et justement, je voulais savoir combien de temps vous avez mis à le faire, ce court-métrage.
Alors, ce film-là, on a mis 4 jours. C'est le film le plus court en niveau tournage de tout ce qu'on a fait, en fait. C'était des journées complètes, donc il y a eu un mois et demi de préparation, 4 jours de tournage, 4 jours par contre très intensifs.
C'est le plus court en termes de temps de tournage, mais c'est le plus long en termes de film proposé par Arec.
Alors, dans la bande-annonce que j'ai visionnée, j'ai vu que la date était annoncée pour le 31 octobre, et finalement, sa sortie était le 14 septembre, et je voulais juste savoir pourquoi avoir décidé de l'avancer.
Bah, en fait, c'était un mauvais calcul de ma part, entre les projections qu'on a fait avec l'équipe et 2-3 invités, et la sortie sur YouTube, on s'est rendu compte qu'on avait quand même mis un mois et demi de délai, donc on trouvait pas forcément utile d'attendre aussi longtemps, puis surtout pressé de le montrer.
Il y a aussi dans le court-métrage beaucoup de références à la Nièvre, je pense notamment à la Loire, le Nifon, le Crapat. Est-ce que pour vous c'est important de rendre hommage à la Nièvre dans vos courts-métrages?
Bah oui, on est une association quand même neversoise, donc le but c'est aussi de mettre en avant un peu notre région, puis de se faire connaître, puis on espère aussi aboutir à quelque chose avec la mairie. Pour que ça se fasse, il faut mettre en avant le patrimoine, voilà.
Et alors, comment vous voyez l'association justement dans le futur? Est-ce que vous visez peut-être le cinéma, des grands films, des grosses productions, ou rester à l'échelle de courts-métrages?
Non, on aimerait maintenant passer sur du format long-métrage. Parce qu'on commence à avoir une équipe quand même assez sérieuse, importante, avec des bonnes connaissances, donc on a plus les moyens maintenant de se lancer sur des projets à long terme. Donc là, c'est vrai que les prochains films qui vont se faire seront plus sur du format long-métrage. Puis ça fait vrai, voilà, c'est plus cinéma, quoi, un vrai film, quoi.
On a tout ce qui est au niveau technique, on a toutes les personnes qu'il faut. Maintenant, on adapte des scénarios au format long métrage. Le seul truc qui nous manque, c'est les moyens maintenant. Donc, il va falloir qu'on aille démarcher des mécènes, des collectivités, pour qu'on ait les moyens de nos ambitions, tout simplement.
Et Lucas, je te pose la même question, du coup, acteur en herbe, est-ce que tu as envie d'en faire ton métier ou comment tu vois les choses par la suite?
Ah ouais, j'ai bien envie de continuer dans tout ce qui est cinéma. Ça fait 3 ans que je fais du théâtre et c'est vrai que le cinéma me plaît de plus en plus. Donc du coup, j'aimerais bien être comédien et acteur si possible dans le futur. Voilà.
Pour finir, est-ce que vous pourriez nous teaser finalement le projet de, enfin le genre ou le scénario de votre prochain court-métrage?
On peut annoncer déjà les genres de films qu'on va proposer. Donc là, on va faire une pause sur l'horreur, parce qu'on a proposé que ça quasiment. Donc là, maintenant, on va plus partir sur du mélodrame. On va garder un peu le policier aussi, mais ce sera principalement sur le mélodrame, hein. Sur des sujets qui touchent un maximum de monde, que ce soit la maladie, les violences,
les phénomènes de société actuels. Ça sera la comédie dramatique qui touchera plus un large public qu'est-ce qu'il y a actuellement.
Et ça montre qu'on peut faire autre chose que de l'horreur.
Et donc ce sera un long métrage du coup plutôt.
Oui. On a 3 longs métrages là qui sont en train de se dessiner.
Merci encore à eux pour cette interview. Vous pouvez donc retrouver leur dernier court-métrage Bloodshoot 3 sur leur chaîne YouTube Arec Productions. Ils ont d'ailleurs récemment sorti une vidéo sur les coulisses de ce court-métrage. Et si vous voulez rejoindre l'association pour être acteur ou actrice ou même participer derrière la caméra, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux Arec Productions, une association nivernaise à suivre de près.
Merci beaucoup Antoine, merci Antoine Charrière, merci Antoine Doirieux, merci Cléo Durieux. Nous vous proposons de nous retrouver le mois prochain dans l'émission L'écho des jeunes. Should I stay or should I go now?